Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Micro-Rebelle dans notre émission Débattre la campagne. Alors, vous savez que cette émission est diffusée tous les mardis à 18h, hein, jusque fin juin et plus si affinité. Cette émission est donc diffusée sur le site de notre web radio, micro-rebelle.fr, micro-rebelle.fr. Micro-Rebelle, c'est la radio des alternatives, des luttes sociales, une radio qui entend mettre en œuvre une démarche collective, une radio indépendante et de proximité. Et donc cette émission Débattre la campagne, hein, chaque mardi à 18h, est également diffusée chez nos amis de Radio Plus, Radio Plus 104.3. C'est la radio, Radio Plus, à la radio du bassin minier et de l'Artois. Alors notre émission Débattre la campagne, hein, vous savez qu'on a pris en quelque sorte un prétexte, hein, le prétexte des élections présidentielles et législatives qui arrivent. On voudrait profiter de ces élections, d'une certaine manière pour discuter politique. Hein, c'est le premier projet. Mais discuter politique sous une forme éducation populaire, autrement dit saisir un petit peu les enjeux de ce qu'est aujourd'hui le politique, la politique. Hein, on essaie de dépasser la politique politicienne, justement, saisir les enjeux, les grands axes structurants en politique, hein, les conflits, y compris qu'il peut y avoir en politique. Et donc on invite plusieurs sensibilités, hein, engagées dans cette campagne, dans ces campagnes électorales, ou non engagées. Hein, je précise qu'on souhaite aussi faire venir à nos micros des militants associatifs, des militants syndicaux. D'une manière très générale. Alors aujourd'hui, on a le plaisir, hein, d'accueillir un militant de lutte ouvrière, hein, c'est Michel Darras. Alors bonjour Michel.
Bonjour Lucien.
Est-ce que je te propose, Michel, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que tu te présentes, de nous donner quelques mots sur qui tu es, ce que tu fais d'une manière très générale, hein, si tu veux bien.
Oui, bon, eh bien, moi, je suis un travailleur. Hein, je vais l'expliquer dans les minutes qui suivent pourquoi je fais campagne pour le camp des travailleurs. Et je suis moi-même un travailleur, comme beaucoup de candidats de lutte ouvrière. On milite, on défend nos idées d'ailleurs toute l'année au contact de nos camarades de travail. Et là où on gagne notre vie, parce que c'est évidemment pas avec la politique qu'on la gagne, notre vie. Hein, nous ne sommes pas des politiciens professionnels, et je n'en suis pas un, même si ça fait de très nombreuses années que je milite pour défendre ces idées. Hein, je travaille à la Française de mécanique, on appelle PCA Douvrin maintenant, hein, depuis une petite vingtaine d'années.
Ben c'est nos amis de Radio Plus qui vont être contents, puisque Radio Plus est une radio qui est implantée à Douvrin. Donc Michel, ben, tu l'évoquais, hein, militant lutte ouvrière. Alors, lutte ouvrière, ça représente qui? C'est, autrement dit, la base sociale de lutte ouvrière, tu parles des travailleurs. Dis-nous un peu qui est lutte ouvrière finalement?
Bah, lutte ouvrière, quel milieu social ça représente? Moi, la quasi-totalité de toute façon de mes camarades, à part les retraités, à part des camarades qui n'ont pas trouvé de boulot ou qui n'en trouvent pas actuellement, sinon on est tous salariés, hein, on est au contact, c'est ce que je venais de dire, on est au contact de la population qui n'a que son travail pour vivre. Hein. Et on n'a pas de rentier chez nous, on n'a pas de capitalistes, on n'a pas de gens qui gagnent leur vie sur le dos du travail des autres. Hein. Nous sommes des salariés et c'est ce monde-là qu'on défend et qu'on a choisi de représenter dans la campagne politique, mais aussi, encore une fois, tous les jours, hein, notre intention étant évidemment, hein, de construire un parti plus puissant, plus fort, plus grand, plus connu. Hein. Et c'est l'occasion dans cette campagne de faire connaître, de mieux faire connaître nos idées.
Très bien. Alors justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est important un parti fort, un parti telle lutte ouvrière. Ça fait
Bah,
partie des enjeux aujourd'hui.
Nous, on pense que enfin, il y a un certain nombre de partis qui représentent évidemment le monde monde des riches, le monde de la société actuelle, hein, et de ses possédants. Il y a un certain nombre de partis très puissants, très organisés. Il y a des associations, toutes sortes d'organisations au service de la puissance capitaliste. Je pense que le monde du travail, qui doit se défendre au quotidien, mais aussi de manière plus consciente, plus lucide, plus regroupée dans des grandes luttes, a besoin d'une organisation, a besoin d'avoir des idées, d'avoir une conscience, d'avoir connaissance de ce qui se passe, pas seulement là où on vit, là où on travaille, mais un peu partout dans le monde. Il faut qu'il y ait une presse ouvrière qui permette non seulement de défendre notre point de vue au jour le jour, mais de s'informer. On pense qu'il faut que le monde du travail, il acquiert une indépendance politique, d'organisation qui lui permette de faire valoir ses intérêts dans ce monde.
Alors, donc, tu évoques le monde des puissants, tu évoques les partis et les mouvements qu'ils soutiennent. On peut dire que le premier parti, finalement, des puissants, c'est le MEDEF, finalement.
Oui, le MEDEF en est une bonne illustration, bien sûr, hein, sous la forme d'un syndicat des patrons. Il montre que, en tout cas, que les patrons ont un certain nombre d'intérêts communs, hein, qu'ils savent défendre quand il s'agit de s'opposer aux travailleurs ou de d'ériger un système qui leur est favorable dans le monde économique actuel, même si les patrons sont en concurrence pour s'approprier les richesses de cette société. Ils sont aussi unis à de nombreuses reprises et ils discutent de leurs intérêts communs, hein, contre le monde du travail.
On peut dire, hein, si je suis un petit peu ce que tu exposes, hein, l'intérêt commun des patrons, c'est finalement donc les patrons, les possédants, c'est une classe. Et tu évoques finalement les classes et les classes en lutte.
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui disent que la lutte des classes, c'est terminé, que ça n'existe plus. Bon, ce à quoi on assiste là depuis plusieurs décennies, c'est quand même une lutte permanente, hein, du monde industriel, de la grande distribution, des télécommunications, de l'énergie, hein, toutes ces grandes puissances, ces multinationales, les banques, hein, sont aujourd'hui les adversaires du monde du travail. Juste un petit exemple pour illustrer à nouveau cette situation. Malgré les profits gigantesques qui sont déclarés à nouveau cette année en 2016, là pour l'année 2016, on voit les banques, par exemple, qui sont responsables d'une aggravation de la situation puisqu'elles ont contribué terriblement au krach financier de 2008. Les banques déclarent à nouveau une santé insolente, hein, de leurs profits. Hein. Eh bien, ça ne les empêche même pas, hein, de préparer à nouveau des milliers de licenciements.
Alors justement, hein, ces milliers de licenciements, hein, dont sont victimes de très nombreuses travailleuses et très nombreux travailleurs, c'est effectivement la lutte des classes telle que la mène le patronat. Et en face, ça réagit. Comment ça se passe du côté de l'autre partie de cette lutte de classe, du parti du monde du travail?
Mais je pense que en face, évidemment, c'est comme on pourrait dire une situation où on prend des coups sur la tête, hein, et il y a des moments où ces coups sont forts, hein, et ils nous assomment. On a un peu du mal à réagir, on peut le dire. Hein, on peut le dire. Maintenant, je crois que puisqu'on est dans une période de campagne électorale, je crois que les partis existants jusque maintenant, les grands partis qui se réclamaient du monde du travail, qui se réclamaient de la classe ouvrière, puisqu'on parle de classe, eh bien ces grands partis ont dévoyé en partie les objectifs, hein, de lutte contre le monde capitaliste. Ils l'ont dévoyé dans la mesure où ils ont chanté les louanges des élections et de la possibilité de défendre les intérêts du monde du travail autrement que par la lutte sociale, que par la lutte collective. Et les élections ont été l'occasion à de multiples reprises, hein, de faire croire à un certain nombre d'illusions, hein, de possibilités qui qui ne se sont pas du tout avérés et qui ont créé une désillusion, créé une certaine démoralisation du camp du travail. Alors, il y a des périodes où les choses ont quand même bougé, on peut le dire, puisqu'on a vécu ces derniers temps une grande lutte sociale en France à travers le combat contre la loi El Khomri, hein, qui est significatif, symbolique de ce gouvernement de gauche, hein, qui avait promis de défendre les intérêts des travailleurs et de ses électeurs. Bon, eh bien, ça montre que les désillusions, elles laissent parfois la place à la colère. Hein, la loi El Khomri, c'était la première grande occasion, en tout cas pour les travailleurs, de relever la tête. Un peu comme quand on est en convalescence, eh bien, on n'a peut-être pas réussi à ce que tout le monde ouvrier, hein, se mobilise, mais il y en a eu en tout cas une forte minorité, une minorité soutenue, hein, par la grande majorité de la population en France. C'était une loi d'attaque menée par un gouvernement de gauche, hein, et qui défend principalement les objectifs du patronat aujourd'hui.
Bon, c'est vrai que ça a été un, je mets des guillemets, enfin un printemps bouillant, hein, qui faisait plaisir à voir, hein, cette mobilisation, ce regain dans la rue. D'ailleurs, peut-être si tu as quelques éclairages sur comment ça s'est passé dans les entreprises, la mobilisation contre la loi El Khomri.
Bah, on peut dire que dans les entreprises, ça a été ça a été assez divers, hein, selon le type d'entreprise, il y a eu c'est une lutte qui a duré assez longtemps, donc sur plusieurs mois, il y a eu une espèce de relais, hein, des entreprises à arrêter de se mobiliser, mais d'autres prenaient le relais, hein, on l'a vu pour celles qui paralysaient par exemple les centres de distribution de carburant, on l'a vu pour une grève qui finalement a touché successivement différents secteurs de l'économie. Bon, on peut dire que dans les entreprises, en tout cas, c'était l'occasion de très nombreuses discussions sur notre situation à tous, hein, sur la situation des intérimaires, sur la situation de tous ceux qui sont inquiets pour l'avenir, pour leur avenir, eux, dans l'entreprise, dont on ne sait pas si elle fermera ou non, hein, mais pour l'avenir de leurs enfants, de leurs proches, l'avenir de cette société tout entière.
Très bien, je te remercie Michel. Alors, je reviens sur un point que tu as évoqué. Hein. Tu évoquais d'autres candidats aux élections qui arrivent, en évoquant le fait que ces candidats, finalement, leur souhait, c'est tout mettre en œuvre pour que ce soit strictement les élections qui prédominent, les urnes, hein, qui sont importantes. Et toi, tu disais... Ben, il n'y a pas que ça. Hein. Les urnes, c'est un moment, mais il y a aussi les luttes. Est-ce que tu peux revenir sur cette espèce d'articulation entre les luttes et le vote? Autrement dit, hein, Lutte ouvrière présente une candidate, hein, Nathalie Arthaud, aux élections présidentielles. Lutte ouvrière va présenter différents candidates et candidats aux élections législatives. Hein. D'ailleurs, je pense pouvoir dire que tu es toi-même candidat sur la circonscription de Lens. Donc, une présence aux élections. Mais en même temps, tu dis, c'est peut-être pas ça le plus important. Enfin, comment ça se passe, selon toi et selon les militantes et les militants de Lutte ouvrière?
Ben, nous, on n'a pas inventé grand-chose de ce point de vue-là. On fait partie d'un mouvement, du mouvement communiste, du mouvement qui, avant même de s'appeler communiste, s'appelait socialiste, hein, et qui avait pour préoccupation de faire grandir la conscience du monde du travail et d'exister, y compris, hein, dans le cadre des élections, en appelant les travailleurs à voter pour leur camp. Hein, sans même espérer qu'il y ait des élus à chaque fois, hein, même si effectivement le mouvement ouvrier il a remporté un certain nombre de victoires du point de vue électoral, hein, y compris à ses débuts en élisant des représentants ouvriers au Parlement, n'empêche que la première chose qui était un objectif de chaque militant était de convaincre ses camarades de travail, hein, de voter pour son camp. De voter pour le camp des travailleurs, de ne pas voter pour des candidats qui finalement représentaient socialement et ses adversaires, qui représentaient le milieu patronal ou des politiciens qui étaient à leur service. Alors il fallait voter pour son camp pour ne pas donner sa voix de toute façon à un ennemi. Alors son camp, il n'est pas toujours le plus fort, c'est vrai, aux élections, mais au moins, notre voix, elle nous appartient, elle reste dans notre camp. Hein, et c'était une façon, évidemment, de lutter contre les illusions électorales, hein, des beaux parleurs, de tous ceux qui déclarent pouvoir tout arranger pour tout le monde, hein, et qui en général se font élire et se moquent bien des promesses qu'ils ont faites au moment des élections.
Mais le plus important, c'est les luttes, finalement.
Alors oui, c'est les luttes, mais c'est une préoccupation pour tous les militants. Quand il y a des occasions de se défendre collectivement, on est particulièrement sensible, mobilisé dans ces périodes-là, et bien sûr qu'on encourage au quotidien tous les travailleurs, tous nos camarades à se défendre collectivement, parce que on défend l'idée qu'effectivement collectivement on est bien plus fort que seul, hein, devant ceux qui nous emploient, devant nos employeurs. Ceci dit, on pense aussi que ces luttes, elles devront déborder sur le cadre de notre entreprise, de chacun de notre entreprise. Ces luttes, elles doivent se rassembler, elles doivent être plus puissantes. Et quand elles sont plus puissantes, évidemment, elles doivent se donner des objectifs bien plus importants. Parce que les luttes, elles ont existé et elles ont gardé dans la mémoire collective une place importante, parce qu'elles ont été bien souvent l'occasion, hein, de victoires du monde du travail. Hein, d'une progression de leurs conditions d'existence, d'un recul du patronat. Les travailleurs, quand ils luttent dans des luttes de masse, eh bien, ils arrivent à se faire respecter. Ils arrivent à se faire craindre. Hein. Ceci dit, nous, on pense aussi, en tant que militants politiques, on pense que il faudra un jour se débarrasser de ceux qui dirigent cette société de cette manière, de ceux qui conduisent finalement toute la société, peut-être à nouveau vers le chaos. Hein, on pense que cette société doit s'organiser autrement, et que pour qu'elle s'organise autrement, les travailleurs doivent jouer un rôle important dans cette nouvelle organisation. Et ça c'est pour te dire que évidemment ça fait le lien avec notre campagne politique, avec notre travail de militant. Bien sûr, on milite pour se défendre au quotidien, mais on milite aussi, hein, pour que la conscience du monde du travail s'élargisse à la nécessité de changer cette société.
Très bien, je te remercie. Alors, si tu es d'accord, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail justement de la campagne électorale. Hein. Bon, tu l'as dit, elle s'articule très fortement aux luttes qui sont souhaitables, hein, pour changer de société, hein, pour sortir du capitalisme, hein, pour s'inscrire dans une société anticapitaliste. Hein. Alors, cette campagne, donc, la candidate au présidentiel, c'est Nathalie Arthaud. Ensuite, aux législatives, vous présenterez des candidates et des candidats. Alors, comment est-ce que toi et les militantes et les militants de Lutte Ouvrière, vous faites campagne ? C'est quoi ? C'est une campagne de terrain ? Bon, évidemment, tu es aujourd'hui sur Micro Rebelle et sur Radio Plus, mais comment ça se passe dans le concret ? Une campagne électorale, en ce moment, c'est quoi pour toi, pour vous, les militants ?
Bah, disons qu'on fait un peu plus ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que on a toujours considéré, nous, que les militants politiques devaient s'adresser en permanence au monde du travail. Le monde du travail, on le trouve dans la rue, on le trouve dans les entreprises où on travaille nous-mêmes, ou sur les lieux d'où on gagne notre vie. Mais on multiplie, dans cette période de campagne, on multiplie les possibilités de rencontrer les travailleurs. On organise des réunions publiques, on organise des meetings, effectivement on va aussi frapper aux portes, hein, pour discuter avec tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous rencontrer, qui n'ont pas l'occasion de connaître nos idées. On fait ce qu'on appelle, nous, des caravanes, c'est-à-dire qu'on se regroupe avec un certain nombre de militants et on essaie de créer des groupes de discussion un peu là où, dans les quartiers où on n'a pas forcément tout le temps l'occasion d'aller, hein, et où on se montre sur la voie publique, hein, d'une manière plus regroupée, si on peut dire. Hein,
Très bien. Alors, juste une question peut-être précise pour nos auditrices et nos auditeurs. Tu évoques des réunions publiques. Est-ce que tu peux donner une date, un lieu
de
rendez-vous ?
Oui, à cette occasion. Effectivement, pour continuer le débat, pour tous ceux qui s'intéressent à ces idées-là, qui s'y retrouvent ou qui veulent simplement en savoir plus, on va se réunir notamment à Lens le 14 avril, à la salle Sion. à 19h. Et on invite évidemment tous ceux qui veulent mieux connaître nos idées ou mieux nous aider à venir y participer. On débattra de nos idées.
Très bien, bien Michel, c'est noté. Donc le 14 avril, salle Sion à 19h hein, à Lens, une réunion publique avec les principaux candidats, avec des militants, des militantes.
Oui, hein, on retrouvera bien sûr la présence des candidats aux législatives futures, de ceux qui se présenteront dans les différentes circonscriptions et qui interviendront aussi sur les problèmes de travail finalement qui sont en commun aujourd'hui à toute la population ouvrière. Mmh.
Très bien, eh bien Michel, je te remercie. Donc nous sommes toujours sur Micro Rebelle, hein, dans l'émission Débattre la campagne, en simultané sur le site de la web radio, microrebelle.fr, et sur Radio Plus 104.3, hein, comme tous les mardis à 18h. Nous allons trouver Michel dans quelques instants, hein, pour continuer un petit peu notre échange sur la campagne telle que la mène Lutte Ouvrière, et puis au-delà de la campagne, les idées hein, présentées par Lutte Ouvrière, ses militants, ses candidats et ses candidates. Et on va s'interrompre pour une petite pause musicale. Hein. Je vais vous proposer d'écouter une musique un petit peu calme, un petit peu douce, hein, une musique paisible. Hein. C'est de la musique classique. Je vais vous proposer de la harpe aujourd'hui. Avec Anne van Scotthorst, c'est une harpiste néerlandaise et qui va nous interpréter A Bird Came Flying. Alors je vous précise que comme toujours sur Micro Rebelle, c'est de la musique libre, autrement dit cette harpiste a souhaité mettre ses compositions, ses créations à disposition de tout le monde d'une manière libre. Et donc on a grand plaisir à l'écouter. Je vous retrouve tout à l'heure avec Michel Darras de Lutte Ouvrière. Thank you. Bien, c'était Anne van Scotthorst, une harpiste néerlandaise, hein, qui nous interprétait ce très paisible morceau, A Bird Came Flying. Et donc nous sommes dans l'émission Débattre la campagne, hein, une émission de Micro-Rebelle, diffusée en simultané sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, hein, tous les mardis à 18h. Et aujourd'hui, nous sommes avec Michel Darras, hein, militant de lutte ouvrière, candidat aux prochaines élections législatives. Donc on évoquait, Michel, la campagne, hein, qui est actuellement menée par les militantes et les militants de lutte ouvrière, hein, à différents niveaux. Hein. Il y a la campagne au niveau national que mène notamment Nathalie Arthaud, et puis il y a la campagne de proximité sur le terrain. Hein. Tu évoquais les réunions publiques, tu évoquais... les caravanes, hein, la présence des militantes et des militants sur le marché, sur au porte-à-porte également, hein, dans les entreprises aussi. Alors, justement, bon, on peut quand même dire que ce que met en avant Lutte ouvrière, hein, ce que tu nous as exposé depuis le début de cette émission, c'est quand même pas des choses qu'on entend usuellement à TF1 et dans les grands médias mainstream. Donc je présume que c'est aussi des choses qui sont peut-être nouvelles pour beaucoup de gens. Alors comment est-ce que c'est reçu auprès des habitantes et des habitants dans les quartiers, auprès des travailleuses, lors des caravanes sur les marchés, quels sont les thèmes qu'abordent les gens, comment ils réagissent à ce que les militantes et les militants de lutte ouvrière exposent, est-ce que tu as des éléments à ce sujet ?
Oui, enfin, moi, je vais dire que un bien grand nombre de nos idées sont entendues, beaucoup de gens qui acceptent de discuter avec nous. Ils sont quand même très nombreux, finalement, puisque la discussion est facile. Dans la rue, facile à partir du moment où on reconnaît, nous aussi, les difficultés qu'il y a aujourd'hui à faire face aux problèmes de tous les jours pour la très grande partie de la population, hein, les difficultés pour finir les fins de mois, les difficultés pour faire face aux choses quotidiennes, hein, à l'éducation des enfants, aux difficultés de la maladie, aux difficultés de tout un tas de choses qui sont des obstacles à la vie, tout simplement, quand on n'a pas beaucoup d'argent, hein, et dans cette société, tous les gens que l'on rencontre, hein, ont bien conscience que leurs conditions d'existence se sont dégradées, hein, ces dernières années. Et donc, bien souvent, on fait le constat dans nos discussions de cette situation qui s'aggrave et de l'inquiétude qu'elle provoque chez tout un tas de personnes. Bon, alors maintenant, le problème de changer, de ne pas se résigner devant cette situation, évidemment, nos idées rencontrent une certaine... comment dire, les gens sont déboussolés politiquement. Les gens ont voté à gauche, ont voté à droite des fois parce que les gens de gauche leur disaient de voter à droite. Les gens ont essayé un peu toutes les solutions politiques. Ils ont vu des gouvernements avec la gauche, avec les Verts, avec le Parti communiste, avec des unions avec des gens de droite. On a vu la droite au gouvernement. Bon, voilà. On peut dire que aujourd'hui les gens ne savent pas quoi penser de la situation politique et des principaux partis qui leur proposent des solutions et de voter pour eux. Alors on pourrait dire que finalement c'est un progrès, bizarrement, puisqu'avant les gens croyaient bien plus facilement les promesses. On peut dire que ces dernières années, oui, il y a une méfiance qui s'est installée vis-à-vis du monde politique. Et forcément, dans les discussions qu'on a au quotidien, hein, les gens évoquent hein, les détournements d'argent ou les scandales là qui concernent un certain nombre de candidats qui gagnent de l'argent public à profusion, enfin de manière choquante, hein, évidemment, en enrichissant leur famille facilement, alors que c'est si difficile hein, quand on est travailleur pour mettre un peu d'argent de côté. Eh bien ces candidats politiques hein, qui défendent en même temps l'idée qu'il faudra continuer à faire des sacrifices, qu'il faudra augmenter les taxes, hein, qu'il faudra peut-être travailler 39 heures tout en étant payé 35, qu'il faudra augmenter l'âge de la retraite, qu'il faudra travailler plus pour être en meilleure santé économique, et ben tous ces candidats qui nous demandent de nouveaux sacrifices, évidemment, ils s'enrichissent facilement, et ça, c'est particulièrement choquant. Alors ça, c'est souvent des sujets de discussion avec avec la population, hein, cette façon de constater l'injustice sociale qui règne dans cette société, l'injustice qui fait tant de différence entre les plus riches dans cette société et ceux qui les défendent, et puis de l'autre côté, l'immense majorité de la population.
Très bien, je te remercie Michel. Alors, peut-être si tu es d'accord, ce que je te propose maintenant, c'est peut-être d'évoquer des propositions que Lutte Ouvrière met en avant durant cette campagne. Alors, on a bien entendu hein, ce que tu disais, autrement dit, l'importance de la mobilisation des gens, leur lutte devant les agressions qu'ils subissent. Tu as insisté là-dessus, c'est vrai. Mais quels sont finalement, au-delà de la nécessaire mobilisation des travailleuses et travailleurs, des gens d'une manière générale, hein, des exploités, au-delà de cette mobilisation, quels sont les axes que met en avant Lutte Ouvrière hein, pour, en quelque sorte, donner des points de repère hein, dans le cadre de ces luttes et dans le cadre de ces élections. Est-ce que tu peux en évoquer quelques-uns pour nos auditrices et auditeurs ?
Oui, bien sûr. Dans un premier temps, je pense que on fait campagne, y compris pour renforcer ce sentiment dont je viens de parler, ce sentiment que il y a quelque chose qui marche pas, y compris du point de vue des institutions démocratiques. On peut dire que tout ça, c'est quand même une sacrée farce. Hein, une sacrée farce parce que en fait on a juste le droit en réalité de choisir lequel des pantins demain sera au service des riches. Hein, tout est fait dans la sélection des candidats pour que les choses ne bougent pas en réalité après les élections. Ceux qui sont aux commandes aujourd'hui seront aux commandes demain. Ceux qui sont aux commandes dans les conseils d'administration des grandes banques, des grandes multinationales resteront aux commandes demain. Hein. Et donc, oui, de ce point de vue-là, le fait de nous faire croire que les élections permettent à la population de choisir son avenir, c'est évidemment un mensonge. Et nous ne voulons pas participer à ce mensonge. Nous ne disons pas, évidemment, qu'il suffirait de voter pour notre candidature, pour Nathalie Arthaud aujourd'hui, hein, ou pour d'autres candidatures de demain aux législatives, pour que les choses changent. Hein. Nous disons que nous sommes des candidatures qui, de toute façon, sommes là pour représenter pour représenter le monde du travail et aussi mettre en avant les exigences du monde du travail. On nous raconte régulièrement sur notre lieu de travail que hein, que voilà qu'on n'est pas opérationnel vraiment, qu'on n'est pas assez productif, qu'on n'est pas bon, qu'il faut s'améliorer, qu'on est trop nombreux, qu'on devrait pouvoir faire le même travail moins nombreux, hein, qu'on coûte trop cher, etc., etc., que nos cotisations sociales sont trop chères. Bon, on est toujours de toute façon montré du doigt pour dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces sociétés, c'est à cause de ceux qui travaillent, parce qu'ils travaillent mal ou pas assez. Bon. Eh ben, nous, on veut faire entendre autre chose, un autre son de cloche. Hein. Notre son de cloche, à nous, c'est de rappeler que, même si la plupart des candidats n'en parlent pas beaucoup, justement, dans cette campagne, c'est que en 2016, il y a eu 76 milliards de bénéfices déclarés par le CAC 40, que cette société est extrêmement riche. Extrêmement riche, et que cette richesse, elle devrait servir à améliorer nos conditions d'existence. On mène campagne, nous, un de nos axes principaux, c'est que oui, cette société, elle devrait permettre au 21e siècle à tous, d'offrir à tous non seulement un travail, mais un revenu qui nous permette de vivre dignement. Hein, on devrait avoir tous un salaire digne.
Alors, hein. Justement, à ce sujet, tu parles de salaire digne. Est-ce qu'il y a une proposition de campagne concernant le SMIC, par exemple?
Oui, on pense que on ne peut pas vivre justement dignement sans un minimum de 1800 euros net. Aujourd'hui, que ça devrait être le minimum de salaire, de revenus pour tous les travailleurs. Et on pense que l'ensemble des travailleurs, les salaires qui sont bloqués depuis des années, devraient immédiatement être augmentés de 300 euros. Les retraites, les pensions, les allocations, elles devraient suivre, évidemment. Parce que... Alors, je parle des allocations, en même temps, je veux dire un mot sur le chômage, parce que... Voilà, ça fait partie de nos revendications. Nous, on dit que pour lutter contre le chômage, arrêtons de donner des milliards au patronat. On nous parle des chômeurs qui sont assistés, de ceux qui ne veulent pas travailler, etc. Mais il y a dans cette société, s'il y a quelqu'un qui est assisté et qui touche de l'argent à profusion et bien plus que la totalité des chômeurs, c'est quand même le grand patronat. Le grand patronat qui, on a chiffré, des spécialistes là, ont chiffré il n'y a pas longtemps la totalité des aides qui leur étaient versées dans une année, en plus des 41 milliards de CICE, en plus des 25 milliards d'aide aux cotisations sociales, de non-paiement de cotisations sociales, et toutes les aides qui leur viennent à profusion, je sais plus si, je crois qu'il y a un catalogue de 6000 aides possibles, que les patrons peuvent toucher. Et ben, quand on ajoute toutes ces aides, on arrive à une somme de 150 milliards. 150 milliards, et pour donner une idée, le budget total de la France est de 330 milliards environ. Voilà où les aides passent. Et bien, nous, on pense que l'argent de l'État doit arrêter d'aller en direction du patronat, arrêter d'atterrir dans les coffres du patronat qui ne s'en sert absolument pas pour embaucher, mais bien plus souvent pour mettre en activité finalement, pour mettre en place des plans de suppression d'emplois. Le contraire même de ce pourquoi il prétend utile ces aides. Alors l'argent public doit aller au public. On doit embaucher aujourd'hui dans les services publics utiles à la population.
Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Là, tu as évoqué un certain nombre de mesures tout à fait phares. Est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple, en matière de licenciement, en matière de... Est-ce qu'il y a des choses à préciser là-dessus,
Michel ? Oui, bien sûr. Pour arrêter que le chômage grimpe, déjà, il faut commencer par faire le robinet des licenciements. Oui, il faut interdire les licenciements des grandes entreprises, à commencer par toutes celles qui font des bénéfices. J'évoquais tout à l'heure celles des banques, de BNP Paribas, qui déclarent plus de 7 milliards de bénéfices cette année et qui s'apprêtent à licencier, à fermer des agences. Mais c'est vrai pour tout un tas de sociétés, évidemment, celles de l'automobile, de PSA, de Renault, qui ont déclaré des bénéfices en hausse d'une manière extrêmement importante, alors qu'ils continuent à licencier, qui viennent de fermer des usines comme PSA ou supprimer 17 000 emplois. Alors oui, il faut interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois. Il faudrait en réalité partager le travail entre tous. Tout le monde... Ça n'est pas acceptable que dans cette société, tout le monde n'ait pas droit à un travail. Puisque pour l'immense majorité de la population, on ne peut pas vivre sans un salaire. On ne peut pas vivre si... Et il ne s'agit pas de mendier sa vie, le droit de vivre. Il s'agit d'avoir un travail et de partager le travail entre tous. Parce qu'effectivement, les progrès techniques devraient permettre de travailler moins. Alors aujourd'hui, il faut recenser partout la possibilité d'embaucher, d'employer des gens et du monde. Et bien voilà, si on est trop nombreux à travailler, bien on baissera le temps de travail. Et il faut maintenir le salaire. Alors ça paraît, on sait bien que les patrons vont hurler, vont parler d'utopie, etc. Mais eux, que font-ils de leurs milliards, de ces milliards dont on nous parle pas tant que ça finalement? Qu'en font-ils? Sinon, préparer peut-être le prochain crack financier, parce qu'ils ne savent pas quoi faire autre chose de leur milliard que de le jouer à la spéculation. Alors oui, voilà pourquoi nous on met en avant les exigences du monde du travail, les exigences des travailleurs, parce qu'on ne voit pas pourquoi on continuerait à se sacrifier pour une société qui en réalité n'offre aucun avenir pour une grande partie de l'humanité.
D'ailleurs, on peut rappeler que cette société, que le capitalisme, il est en crise profonde, que la crise de 2008, même si aujourd'hui on nous dit que c'est reparti, mais le système, il est dans une crise profonde que subissent la population, les travailleuses et les travailleurs. Voilà, bah écoute Michel, je te remercie pour ces précisions concernant le programme défendu par Lutte Ouvrière à l'occasion de ces échéances électorales. J'ai envie de te poser une question, hein, je te laisse y répondre si tu le souhaites. Donc Lutte Ouvrière se définit comme un parti communiste, et j'avais envie de te parler du Parti communiste, justement du Parti communiste français, qui ne présente pas de candidat aux élections présidentielles. On pense qu'il y aura des candidats, enfin apparemment il y aurait sans doute des candidats par endroit aux élections législatives. C'est un parti qui a une histoire avec des militants, avec une tradition ouvrière. Comment tu réagis à ça? Quels sont les liens, bon, peut-être toi sur le terrain, que tu entretiens avec les communistes? Quelles sont tes analyses sur ce qui se passe aujourd'hui du côté du PCF,
hein. Bah, moi, je pense que nous nous présentons dans ces élections, Nathalie Arthaud se présente comme la seule candidate communiste. Hein, et à la fois, nous sommes fiers de nous réclamer de ces idées-là. Et je pense qu'effectivement, ce n'est pas une bonne chose que le Parti communiste, qui était un parti bien plus important que le nôtre, n'existe pas dans cette campagne aujourd'hui en tant que Parti communiste. Hein, le fait que, en tout cas, que ce parti ait choisi de s'aligner, de mener sa campagne derrière celle de d'autres candidats qui ne se réclament pas du communisme, ben c'est pas une bonne nouvelle finalement pour tout un tas de militants du Parti communiste qui le regrettent. Qui le regrette, parce qu'effectivement, à la base, on rencontre un certain nombre de militants, de sympathisants, d'électeurs du Parti communiste qui sont désorientés par la politique de leur parti, hein, même si certains comprennent que c'est difficile pour leur parti de continuer à être présent sur ce terrain-là, parce qu'il y a un recul de leur situation depuis de nombreuses années. Eh bien, beaucoup regrettent, hein, les choix politiques des dirigeants du Parti communiste. Alors, ça nous amène forcément à dire quelques mots sur l'évolution de ce parti, pas seulement en France, mais aussi dans le reste de l'Europe. Le mouvement communiste, il s'est construit à une époque pratiquement dans tous les partis du monde. Et puis, ce à quoi on assiste, c'est quand même le fait que ces partis se sont un petit peu à la fois rangés, associés aux partis existants dans leur pays, qui était sur le terrain électoral, sur le terrain des institutions, du monde bourgeois. Hein. Ils ont appris, ils ont participé à des gouvernements. Alors, c'est pas nouveau, mais depuis longtemps maintenant, ils ont eu des ministres. Hein. Ce sont devenus des partis de gouvernement qui ont géré, au fond, les affaires de la bourgeoisie quand ils y étaient. Et non seulement ça a jeté un certain discrédit sur leur parti auprès des couches populaires, hein, mais ça les a terriblement affaiblis. Bon, moi je crois que les idées communistes, elles restent les idées de l'avenir, parce qu'en même temps, cette tentative d'un certain nombre de partis de rentrer dans le jeu de cette société, hein, d'essayer de proposer des petites améliorations, elles se sont traduites dans cette période de crise, hein, elles se sont traduites souvent par des échecs, hein, par y compris l'incapacité de préserver les intérêts de la population, et elles ont fait jouer comme rôle au ministre communiste derrière. Même s'ils étaient qu'une minorité, même s'ils n'étaient même pas chefs de ces gouvernements, bien entendu, n'empêche, hein, qu'ils ont cautionné des politiques qui étaient antipopulaires, qui étaient des politiques contraires, hein, aux idées de bien des militants de la base.
Et tout ça a contribué à déboussoler les gens, les travailleurs, les militants, finalement.
Oui, bien sûr que ça a déboussolé bien, bien des militants qui ont défendu leur parti, qui ont défendu leurs idées contre vents et marées dans tout un tas de situations et qui ont été évidemment en partie déçus du fait que les idées qu'ils avaient défendues, elles étaient abandonnées par leurs propres dirigeants.
Très bien, Michel, bien, je te remercie. Alors, on s'achemine tout doucement vers la fin de cette émission, Débattre la campagne avec Lutte ouvrière et Michel Darras, sur microrebelle.fr et sur Radio Plus. Alors, ceci étant, j'avais quand même envie de terminer par une petite, un petit clin d'œil finalement, parce que je sais que tu peux y être sensible. On est en 2017. 100 ans après 1917, donc c'est dans le mouvement ouvrier une date qui évoque quand même un grand soulèvement, le premier soulèvement révolutionnaire. Qu'est-ce que tu as envie d'en dire aujourd'hui? Je te pose la question parce que d'abord, c'est qu'on n'en parle jamais, quoi. On parle jamais de ce qui s'est passé en Russie à l'époque, il y a 100 ans. Alors, lutte ouvrière et cette révolution.
Oui, effectivement. C'est un anniversaire dont on ne peut pas, en tout cas nous, oublier de parler. Hein. On en parle d'ailleurs chaque semaine dans notre journal et dans notre presse, hein, pour vivre un peu, mois après mois, l'évolution de cette révolution qui a commencé en février 1917. Et je voudrais d'abord dire que si ça évoque quelque chose, c'est que 1917, c'était la guerre mondiale. Hein. Une partie de l'Europe était couverte de tranchées, les bombardements et les morts étaient insoutenables. Hein. C'était une véritable boucherie organisée avec les moyens les plus sophistiqués de l'époque pour tuer. Hein. Et la population d'Europe était entraînée dans cette guerre sans savoir comment s'en sortir, comment sortir des tranchées, comment sortir des assauts, des bombardements, des sacrifices imposés à toute la population européenne. Eh bien, la révolution russe va commencer par quelque part par une révolte de la population dans une situation qui paraissait incroyablement difficile pour que la population puisse se faire entendre, hein, c'est les femmes qui ont démarré contre les difficultés de la vie dans les villes, hein, contre le rationnement, contre le marché noir, contre le fait que là aussi en pleine période de guerre, et bien des profiteurs s'enrichissaient sur la misère des gens. Et puis, bien entendu, quand le régime tsariste, qui était là depuis plusieurs siècles, s'est effondré, hein, évidemment, ça a créé un étonnement terrible dans toute l'Europe de l'époque, hein, où il y avait peut-être plus autant de têtes couronnées, mais il y en avait encore beaucoup. Hein, et cette révolution, elle sonnait la colère de à travers la colère de la population, à travers la colère des soldats qui refusaient d'obéir et de continuer cette guerre. Elle sonnait peut-être un début de fin pour tous les régimes de tyrannie et qui existaient encore en Europe. Alors, elle était aussi une terrible inquiétude pour le monde bourgeois, hein, qui se sentait évidemment menacé par cette révolution, par de ce point de vue-là, c'est évidemment un anniversaire qu'on est fier de fêter, hein, qui nous rappelle que le monde du travail a une puissance énorme, celle de balayer les régimes. Hein, qui les ont exploités depuis longtemps. Et ça reste évidemment un terrible espoir pour l'avenir, hein, que les populations de demain soient capables de se débarrasser des régimes qu'on a sur le dos aujourd'hui.
Très bien, Michel, je te remercie. D'ailleurs, ça me fait penser, en t'écoutant, que ça pourrait être intéressant au niveau de Micro-Rebelle de consacrer une chronique régulière à ce qui s'est passé effectivement en Russie il y a 100 ans. Une suggestion que je ferai à mes collègues de l'équipe de Micro Rebelle. Bien, nous allons maintenant nous achever vers la fin de cette émission débattre la campagne. Nous sommes aujourd'hui, nous avons passé une petite heure avec Michel Darras, militant de lutte ouvrière, qui a présenté la candidature de Nathalie Arthoux, qui lui-même est candidat aux législatives sur la circonscription de Lens. Alors je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que nous avons prévu de revoir Michel et d'autres militants et militantes de lutte ouvrière lors d'une prochaine émission. Et que justement, il est possible de poser des questions, d'envoyer un petit peu des demandes d'intervention. Le plus simple, c'est le courrier électronique, en écrivant à l'adresse contact de la radio, contact@microrebelle.fr. Donc je rappelle, pour conclure cette émission avec Michel Darras et Lutte Ouvrière, la réunion publique qui aura lieu le 14 avril, salle Sion, à Lens, à 19h. Je rappelle aussi que pour plus d'informations concernant les propositions de Lutte Ouvrière, il est possible d'acheter le journal Lutte Ouvrière en librairie ou auprès des militants et militantes de Lutte Ouvrière directement. Il est également possible de consulter le site internet de Lutte Ouvrière, lutte-ouvrière.org. Nous aurons l'occasion de reparler de tout ça. Nous sommes sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3. Et nous allons terminer par de la musique, comme tout à l'heure, avec toujours Anne van Schoonhorst, pour un petit morceau de harpe, pour terminer très tranquillement cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. À très bientôt. Thank you.